France Culture.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villaine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Esprit Public, l'émission qui prend le temps de revenir sur l'actualité nationale et internationale avec des intellectuels sur le ton de la conversation. Aujourd'hui, la démocratie est-elle toujours en Amérique ? Une émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa.
My family and I have known for years that there are costs to standing up to Donald Trump. But we couldn't imagine ourselves living any other way.
Ma famille et moi savons depuis des années ce qu'il en coûte de s'opposer à Donald Trump, mais nous ne pouvions pas imaginer une autre façon de vivre. Nous ne vivrons pas à genoux et vous ne devriez pas non plus. Quelqu'un que j'aime profondément a récemment dit que la peur est l'arme d'un tyran, et elle a raison. Mais je n'ai pas peur, et j'espère que vous non plus. J'espère plutôt que vous êtes engagé, que vous êtes vigilant, et que vous voterez comme si votre pays adoré en dépendait, ce qui est le cas. Mon cœur est brisé concernant le département de la justice, mais j'ai profondément confiance dans le système judiciaire fédéral, et je suis innocent. Donc allons à ce procès et gardons la foi.
James Comey, ancien directeur du FBI, inculpé jeudi 25 septembre pour entrave à la justice, ici dans une vidéo sur Instagram en réaction aux 5 ans de prison qu'il risque pour avoir décrit des ingérences russes dans la campagne américaine de Donald Trump en 2016. Il avait été limogé du FBI par le président américain un an plus tard. Justice en Amérique s'est félicité Donald Trump en capitale sur son réseau social, nommé La Vérité, qui lui sert désormais à passer en direct et en public ses instructions au ministère de la Justice, aux grands médias, et à mettre en œuvre ce qu'il avait promis à l'Amérique à l'aube de son second mandat, la vengeance. Pendant ce temps-là, la garde nationale est attendue à Portland, en Oregon, après un tir contre un centre de la police de l'immigration. C'est anti-américain, s'est insurgé le maire de la ville, à propos du déploiement attendu de l'armée, comme dans 3 autres villes démocrates. Anti-américain, dit aussi Jimmy Kimmel, l'humoriste star d'ABC, de retour à l'antenne après une semaine de suspension dans le viseur du président. Comment décrire la pente qui s'empare de l'Amérique un an avant les élections de mi-mandat, risquées pour Donald Trump, même s'il semble déjà les enjamber en proposant à la vente des casquettes Trump 2028 alors qu'il n'aura pas le droit de se représenter. Les gouvernements périssent par impuissance ou par tyrannie, prévoyait Alexis de Tocqueville dans son ouvrage de la démocratie en Amérique il y a près de 200 ans. La dystopie se trouve désormais au rayon actualité, a commenté cette semaine une lectrice de Cyberpunk, le nouveau système totalitaire, publié au Seuil par Asma Mala. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en sciences politiques, politologue et essayiste. C'est votre ouvrage qui vient de sortir. Et je vous présente le reste des invités habitués de l'Esprit public. Bertrand Badi, bonjour.
Bonjour.
Professeur en relations internationales, auteur de L'art de la paix chez Flammarion en 2024. Juste en face de vous, Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, éditorialiste au journal Le Monde. Votre dernier livre, Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. C'était chez Stock en 2023. Et Thomas Gomard, bonjour, merci
bonjour,
d'être là.
Mylène.
Directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Je cite votre dernier livre chez Talendi en 2024, L'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle. Merci à tous les quatre d'être là pour parler de ce sujet des États-Unis. Mais juste avant, c'est la tradition dans cette émission, j'aimerais quand même qu'on revienne en un tour de table sur l'actualité majeure nationale, qui est bien sûr la condamnation en première instance de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, avec mandat de dépôt à effet différé et 100 000 euros d'amende. Qui veut commencer ? Bertrand Badi ?
Oui, moi ce qui me surprend, c'est pas la condamnation, ce qui me surprend, c'est cet incroyable battage médiatique et politique qu'il y a autour d'un procès dont on ne peut pas dire, pour se lancer dans les comparaisons avec ce que nous verrons plus tard, qu'il ait été bâclé ou préfabriqué. Il y a eu quand même 10 ans d'instruction, il y a eu un arrêt de 400 pages qui a été rendu, et une peine mesurée. Quand on est sous le chef d'accusation d'association de malfaiteurs, on risque 10 ans. Monsieur Sarkozy en a pris pour 5 ans. Donc tout cela est parfaitement modéré. Ce qui me gêne donc dans ce battage, c'est deux choses qui là peut-être rejoignent ce dont nous allons parler tout à l'heure. C'est d'abord cette doctrine que j'appellerais avec beaucoup de guillemets de l'immunité naturelle, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'acteurs seraient immune par nature face à la justice. C'est quelque chose qui est en train de pousser, aux États-Unis, nous le verrons, mais en France également, c'est-à-dire une nouvelle version de l'exceptionnalisme politique et de la personnalité politique. Et puis, l'autre gêne, elle est symétrique, c'est que la justice soit prise pour cible, la présidente du tribunal ait reçu des menaces de mort, que l'on entende sur la justice des choses absolument incroyables. Et là aussi, c'est une habile transition que vous avez ménagée avec le sujet dominant du jour.
Et on va en parler. Sylvie Kaufmann, un mot ?
Oui, moi, ce qui m'a le plus troublé, c'est une phrase de l'interview que Nicolas Sarkozy a donnée au Journal du Dimanche. Il dit ceci, « Toutes les limites de l'état de droit ont été violées ». Alors, je comprends qu'il soit révolté, qu'il soit en colère, c'est un jugement sévère. En particulier, ce qui le choque le plus, bien sûr, c'est cette disposition du mandat de dépôt avec exécution provisoire. Et en effet, ce sera le premier président de la République qui probablement va dormir en prison, comme il a été le premier président de la République à porter un bracelet électronique. Mais dire que toutes les limites de l'état de droit ont été violées, je trouve que c'est, comme dirait le tribunal, d'une gravité exceptionnelle. Parce que c'est faux. D'abord, l'état de droit est respecté, il est appliqué par le tribunal, par les trois juges qui ont en effet mené 10 ans de procédure. C'est pas un travail qui a été fait à la légère et ce sont des lois. Ce jugement est prononcé en application de lois qui ont été votées par la représentation nationale, élue démocratiquement, y compris par des élus du parti du président Sarkozy. Donc voilà, je pense que s'en prendre à l'état de droit, c'est-à-dire aux fondations même de notre système démocratique, c'est quelque chose qui est grave, qui, parallèlement à toutes ces attaques contre la justice, il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est dangereux.
Je vous donne la parole dans un instant, Thomas Gomard, mais j'ajoute quand même qu'il a fait appel, l'ancien chef de l'État, et qu'il sera convoqué le 13 octobre pour fixer la date de cette incarcération. Allez-y.
Oui, pour ma part, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est ce climat de haine et de passion que cette condamnation provoque. Nicolas Sarkozy est aujourd'hui un homme à terre. Je ne suis pas certain que ce soit nécessaire d'en rajouter. Il est face à son destin. Moi, ce que je retiens de cette affaire, ce sont ses commencements. C'est-à-dire qu'à l'origine de tout cela, on a la possibilité d'avoir une réflexion sur le lien entre association de malfaiteurs et raison d'État. Puisqu'en réalité, ce qui est désormais, pas reproché, mais ce pourquoi le président Sarkozy est condamné, c'est le fait que deux de ses collaborateurs, Brice Hortefeux, Claude Guéant, ont rencontré Abdelallah Senoussi, qui avait été condamné par contumace à la perpétuité pour son implication directe dans l'attentat de 1989 du décès 10 d'UTA. Et ça, je pense que c'est quand même très intéressant de se dire, au fond, quel est le bilan rétrospectif de la présidence Sarkozy, avec comme Premier ministre François Fillon, en matière de politique étrangère. Après cette affaire, nous avons eu Kadhafi qui a campé à Paris. Nous avons eu la guerre, l'intervention en Libye avec les conséquences que l'on sait. Nous avons eu aussi Bachar el-Assad invité au 14 juillet avec les conséquences que l'on sait. Et nous avons aussi eu un gouvernement qui a vendu des armes à la Russie. Et c'est ça que je retiens en fait, c'est-à-dire de s'interroger sur la manière dont la raison d'État est justifiée pour au fond faire des montages qui peuvent conduire à ce type de drame.
À ce moment-là.
Alors moi, je ne suis pas du tout experte, évidemment, du dossier et du sujet. Donc, je ne ressens aucune émotion par rapport à ce qui se passe. En revanche, Il faut se réjouir d'une seule chose, c'est qu'on a encore probablement une justice indépendante qui est l'un des piliers de ce qu'on appelle la démocratie. Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, ça, il faudrait vraiment le choyer, le chérir, le mesurer et ne pas le torpiller comme le débat public ou la façon dont on est en train de façonner le débat public actuellement, c'est-à-dire ultra polarisé avec les gentils, les méchants, sans aucune nuance, sans aucune complexité, essaye de torpiller en fait nos institutions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir très clair en tête pour se poser cette question-là, est-ce que sinon on veut ressembler aux États-Unis actuellement? Et je crois que la réponse, j'espère que la réponse est encore un tout petit peu non. Et donc si c'est non, il faut se réveiller.
Et c'est vraiment la question que j'aimerais poser en filigrane de cette émission. Est-ce qu'on peut tirer des leçons de ce qui se passe aux États-Unis pour nos démocraties européennes et en particulier pour la France? Puisqu'on dit parfois de manière un peu rapide que les États-Unis ont 10, 15 ans d'avance. Ce sera intéressant de vous entendre là-dessus. Alors, quand on relit De la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, on a l'impression de lire un livre du futur. C'est-à-dire comme quelque chose dont qu'espéreraient les États-Unis, la liberté de la presse, la liberté de la séparation des pouvoirs. Je vous lis juste un extrait sur la justice, puisque c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Le premier caractère de la puissance judiciaire chez tous les peuples est de servir d'arbitre. Est-ce que Bertrand Badi, c'est ce qui se passe en ce moment, et dans quel type de dérive, si on est dans une dérive, est-on ?
Alors, la dérive, elle est évidente. Hein. Et de ce point de vue, la personnalité de M. Comey est extrêmement révélatrice, parce que c'est le type même du juge indépendant. Il ne faut pas oublier que dans sa préhistoire, le juge avait eu maille à partir avec le couple Clinton, avait notamment été à l'origine de et l'affaire Lewinsky et aussi de l'affaire de la messagerie privée d'Hillary Clinton. Donc ce n'est pas un militant démocrate, ce n'est pas un militant politique. C'est un homme qui a servi la justice face à des pouvoirs qui sont aussi différents que ceux incarnés par Hillary Clinton et Donald Trump, sachant que c'est peut-être un peu grâce à l'action de M. Comey que Hillary Clinton a été battue et que Trump a été élu pour son premier mandat. Donc, il y a déjà quelque chose de terrible que de voir effectivement cette incarnation de la justice indépendante ainsi tomber sous le coup d'une inculpation. Mais ce que je voudrais dire, et je m'arrêterai là dans cette première intervention, c'est que on ne peut pas comprendre, et ça c'est mon refrain depuis un certain temps, Trump sans comprendre le Trumpisme. C'est-à-dire, effectivement, il y a une initiative extrêmement choquante d'un président qui, de plus en plus, s'habitue à donner les ordres aux procureurs et à déterminer les inculpations, ce qui est gravissime du point de vue de l'indépendance des pouvoirs. Vous citiez Tocqueville, mais Tocqueville écrivait dans un temps où, véritablement, le balance of power, la séparation des pouvoirs, était à son paroxysme, à son accomplissement. Et qu'est-ce qu'il y a de changé aujourd'hui ? C'est que derrière Trump et le Trumpisme, il y a une pathologie, une maladie profonde de la société américaine. C'est ça qu'il faut comprendre, et comprendre comment cette pathologie de la société américaine vient dépasser l'ouvrage de Tocqueville. Tocqueville a écrit ce livre lorsque la société américaine s'accomplissait dans son libéralisme, son constitutionnalisme, dans son respect du droit. C'était une société qui sortait de l'adolescence et qui était, je dirais, en pleine forme. Aujourd'hui, prenons en compte cette pathologie de la société américaine. C'est pas seulement les clowneries de Trump, ça c'est pour les auteurs de cartoons, de caricatures. Prenons en compte le terreau social de ce phénomène, et là vous allez voir, si on en reparle, il va y avoir des grosses surprises.
Sylvie Kaufmann.
Oui, alors il y a quelque chose de très inquiétant. Après, je ne pense pas qu'on en soit encore là en Europe, mais ça, c'est une question dont on va bien sûr débattre. Mais ce qui est très inquiétant, c'est cette emprise du président des États-Unis sur le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire qu'il rompt avec une tradition américaine qui est que les présidents des États-Unis, théoriquement, s'efforcent de respecter l'indépendance de la justice. Et là, de manière extrêmement ouverte, brutale. Il donne des ordres. Il dit le département de la justice doit incriminer mes opposants politiques, en gros. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dérive. On pourrait penser que dans un schéma politique relativement logique, ça a une base idéologique, ces attaques contre ses opposants. Mais là, en réalité, c'est de plus en plus pour des raisons personnelles, de revanche personnelle. C'est-à-dire, ils ont dit du mal de moi, ils m'ont fait du mal. Ils m'ont persécuté, ce qui a été le cas. Il a été l'objet de nombreuses procédures judiciaires pendant son premier mandat. Mais voilà. Donc, en gros, il accrédite la thèse de la revanche, de la vengeance, de la punition de ceux qui l'ont poursuivi en justice. Et donc, il fait licencier, il fait limoger des procureurs assez nombreux. D'ailleurs, la fille même de James Comey, l'ex-chef du FBI, sa fille était une procureure fédérale à Manhattan. Elle a été limogée au mois de juillet. Il donne des ordres comme ça. Si un procureur s'oppose à une instruction qui est donnée par le département de la justice, eh bien, il est remplacé par quelqu'un qui est un affidé du président Trump. Donc ça, c'est vraiment qu'il n'y a pas nécessairement, comme on le voit actuellement dans cette affaire de James Comey, le procureur qui vient d'être nommé est une avocate personnelle de Donald Trump qui n'a pas d'expérience elle-même du parquet. Donc voilà, là c'est vraiment quelque chose de flagrant, de très ouvert, de très brutal, et c'est ça qui est, ça n'est même pas caché, si vous voulez. On ne cherche même pas à avoir des excuses formelles, enfin formalistes. Et donc on voit que l'orientation de ce deuxième mandat de Donald Trump, c'est vraiment celle de l'élargissement, l'extension du pouvoir exécutif et des pouvoirs présidentiels. Et c'est quelque chose de très structurant.
Thomas Gomard.
Oui, Astrid de Villene, vous êtes reparti de Tocqueville et Bertrand aussi l'a rappelé. Je pense qu'il faut se souvenir qu'il écrit en 1831-1832. C'est pas vraiment le moment où la société américaine est en pleine forme. C'est-à-dire qu'on est à la veille de la guerre civile, en réalité. Et Tocqueville a aussi des pages extrêmement pertinentes sur la disparition des Indiens d'Amérique ou sur les ravages de l'esclavage, et il démontre ça de manière très précise. Je fais ce rappel parce que je pense que c'est effectivement une lecture qui, à mon avis, reste très pertinente, y compris pour comprendre les États-Unis aujourd'hui. La deuxième chose qui me frappe, c'est que, au fond, ce que Donald Trump essaie de faire, c'est une fusion des pouvoirs. C'est-à-dire que, effectivement, la séparation entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif doit disparaître au profit de pouvoirs concentrés dans la Maison-Blanche. Il y a pas mal d'analogies de ce point de vue-là, et je ne sais pas si Sylvie sera d'accord avec moi, mais ça me rappelle beaucoup ce qu'on appelle en Russie la prokuratura, c'est-à-dire le procureur général qui est à la main du pouvoir exécutif. Et il y a effectivement, dans la manière dont Donald Trump conçoit et met en place son pouvoir, des analogies de plus en plus fréquentes avec ce qu'on a pu observer de la Russie de Vladimir Poutine. C'est peut-être ça qu'il faut regarder pour essayer d'anticiper les évolutions à venir. Et puis le troisième point, c'est que en réalité, à mon avis, ce qui se dessine avec Donald Trump, c'est la désignation de l'ennemi de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est à la fois en termes politiques, en termes judiciaires et également en termes médiatiques, ce qui peut être une manière, à mon avis, aussi d'entrer dans la discussion du livre d'Aspin Mala, mais cette désignation de l'ennemi intérieur me semble aujourd'hui la principale caractéristique de la pratique du pouvoir par Donald Trump.
Un autre parallèle avec la Russie, d'ailleurs.
Absolument.
À ce moment-là, vous faites comme trois périodes sur le trumpisme. L'ère de la post-vérité, l'ère de l'après-loi.
Post-égal.
Et ensuite, ce que vous commencez à appeler le pré-fascisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre vision là-dessus, et peut-être aussi en réaction à ce premier débat autour de la justice américaine et ce qui se passe dans l'actualité?
Pour essayer de comprendre le trumpisme, au-delà des pseudos effets de sidération, des hystéries collectives dont on a été tous victimes à partir de son retour en janvier 2025, j'ai essayé de comprendre, dans un système sans doute très imparfait, mais qui était le mien, d'essayer de comprendre ce qu'était le Trumpisme, ce que ça racontait d'un point de vue plus systémique. Et en fait, quand on le prend sur toute ça, il y a quand même eu un premier mandat de Trump. C'est-à-dire, c'est pas une surprise ce truc. Enfin, moi, ça m'avait beaucoup choqué. Même les éditos qu'on lisait à droite à gauche, tout le monde faisait semblant d'être étonné. Mais enfin, étonné de quoi ? On avait quand même eu 4 ans auparavant de Trump. Et donc, on avait eu une espèce d'annonce. C'est la bande annonce, on l'avait. Et donc, c'était très étonnant. Tout le monde tombait des nues de façon très bizarre. Et donc, j'ai essayé de comprendre ce qui se jouait sur le temps long. Alors, il y a plusieurs choses qui se jouent sur le temps long. La première, c'est, je commence à partir de son premier mandat, et là, c'était l'ère vraiment de la post-vérité. C'était le fameux édito de Catherine Weiner, qui était au Guardian, qui avait dit, voilà, on est entré dans la post-vérité. Et à ce moment-là, c'est très juste, puisque lui-même, avec une de ses conseillères à l'époque, une blonde dont j'ai oublié le nom, on parlait quand même d'alternative facts. On était carrément dans les faits alternatifs.
Quel sexisme.
Elles sont toutes blondes, Thomas Gomard. Elles sont quand même beaucoup de blondes là-dedans, aux yeux bleus. Donc moi, brune, je suis un peu complexée, mais je me sens un peu minoritaire. Mais globalement, on parlait d'alternative facts. Donc c'était absolument le mode de gouvernement. C'était encore, à ce moment-là, c'était encore très naïf d'ailleurs. On parlait encore de fake news. Et à partir de là, a commencé le déchaînement de ces outils, soi-disant de fact-checking, qui en tout cas ne convainquait personne. Mais on en était là. Après, il va y avoir Joe Biden, mais qui était dans cette espèce de fatigue du système et fatigue démocratique, qui n'a à peu près rien réparé du tout, au contraire. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, les peurs se transformaient en désir en colère, puis en revanche. Et donc c'est là-dessus que Trump va faire son terreau, mais avec une triangulation qui est très intéressante, puisqu'il va trianguler 3 choses. La colère des rednecks. Alors oui, l'électorat de Trump, je le précise tout de suite, c'est aussi beaucoup de latinos, de blacks, etc. Mais globalement, c'est bien la colère de toute cette classe qui se déclassait avec ce sentiment de perdre sa dignité, qu'on va retrouver d'ailleurs chez les Gilets jaunes en France. C'est un peu ce même terreau-là, mais qui va construire une espèce de revanche ou de détestation de ce qu'on va appeler l'élite, mais qu'ils vont complètement fusionné à tort par ce qu'on va appeler l'état de droit ou la démocratie. Et donc tout ça fait un boulga incompréhensible, mais qui cristallise la colère. Donc premier angle, c'est les rednecks. Le deuxième angle, et je parle de rednecks volontairement, parce qu'il y a le suprémacisme blanc derrière. Et qu'on ne va pas retrouver dans la continuité des électeurs qui vont être plus tard déçus par le trumpisme qui étaient les minorités et qui commencent à se retourner un tout petit peu. La deuxième colère, c'est la colère quand même des gourous de la tech. Alors eux, c'est le libertarianisme accélérationniste. Il faut absolument détruire l'État pour en fait continuer le progrès technologique et leur innovation. Et enfin, vous avez toute la clique des idéologues néo-réactionnaires. Et donc là, c'est la deuxième période dans laquelle on est là, et que j'appelle la post-légalité ou le post-légalisme. Et la séquence qu'on vient de vivre, mais qui a été précédée de celle de Bolton encore. À cet été. Bolton, qui était l'ancien conseiller de sécurité, qui a eu des visites chez lui par le FBI, des perquisitions, etc., et qui est aussi perçu, comme le disait très justement Sylvie Kaufmann, mais qui est perçu par Donald Trump comme une espèce d'ennemi personnel, d'un gars qu'il n'aime pas beaucoup, et donc qu'on va aller embêter. Donc le post-légalisme, c'est de dire quoi ? C'est de dire qu'en fait, c'est très intéressant l'hybridation du régime trumpiste, parce qu'il recolle avec certains codes du fascisme, mais pas tout à fait, mais pas tout à fait. Et l'ennemi intérieur, ça c'est une rhétorique très Carl Schmitt, hein, l'ennemi intérieur qu'on va aller détruire, on n'est plus dans une logique d'adversaire, on est dans une logique d'ennemi existentiel à abattre. Donc ça c'est pas la même chose. Et surtout, ce qui est hybride, c'est qu'il continue malgré tout à opérer dans le cadre démocratique américain. Il n'est pas du tout en train de l'abattre, il opère dedans en le dévitalisant. Et donc en fait, les cours fédérales continuent à juger d'ailleurs. Mais vous avez une captation, vous avez un droit qui est assiégé et qui n'est plus limite du pouvoir, mais qui est en fait la mise en scène et l'arme du pouvoir.
Hello, turning point. Hello, patriots. The light will defeat the dark.
Bonjour Turning Point, bonjour Patriotes. La lumière vaincra les ténèbres. Nous vaincrons les forces de la méchanceté et du mal. Elles ne peuvent pas imaginer ce qu'elles ont réveillé. Elles ne peuvent pas concevoir l'armée qu'elles ont suscitée en chacun de nous. Qu'avez-vous ? Vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes la méchanceté, vous êtes la jalousie, vous êtes l'envie, vous êtes la haine. Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien construire, vous ne pouvez rien produire, vous ne pouvez rien créer. Nous sommes ceux qui construisons. Nous sommes ceux qui créons. Nous sommes ceux qui élevons l'humanité.
Un extrait du discours de Stephen Miller, chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, conseiller à la sécurité intérieure des États-Unis lors de l'hommage à Charlie Kirk le 21 septembre dernier, près de Phoenix, en Arizona. J'aimerais qu'on s'intéresse ensemble au champ lexical, une armée, le bien et le mal, les ennemis contre les adversaires. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que le mot polarisation qu'on utilise ici en Europe ou en France est adapté à ce qui se passe aux États-Unis ou faut-il aller plus loin? Et surtout, y aura-t-il un avant et un après Charlie Kirk? Bertrand Badi.
Je pense qu'il faut prendre en compte un double effondrement. Et c'est probablement dans cet effondrement que les dystopies dont on parle tant en ce moment commencent à se réaliser. C'est l'effondrement des idéologies. C'est-à-dire qu'on a vécu avec la guerre froide le paroxysme de la confrontation idéologique des types de sociétés, d'économies, d'ordres politiques qui s'opposaient. Et puis l'effondrement des institutions. Parce que je suis d'accord avec ce qu'a dit Thomas tout à l'heure. C'est vrai que lorsque Tocqueville écrivait, les jours sombres de la guerre civile commençaient à pointer à l'horizon. Mais en même temps, les institutions tenaient, les structures institutionnelles tenaient. Or, ce qui s'est produit, c'est, je dirais, une double désillusion. Là, je vous rejoins peut-être partiellement, mais c'est d'abord l'échec de l'entrée des États-Unis dans la mondialisation qui se traduit par un double désamour qui est à l'égard du keynésianisme, qui est réprouvé, dénoncé, etc., et aussi à l'égard du néolibéralisme qui pensait être le substitut naturel, qui allait tout réguler, le champion du marché, de la libre compétition. Tout ça, ça s'est effondré et il n'y a plus rien derrière. Et de même, l'effondrement de l'appareil institutionnel fait que les deux maîtres de la pensée institutionnelle états-unienne, à savoir Hobbes et la grande idée de la souveraineté portée par un État valorisé, et Locke, qui est justement l'équilibre des pouvoirs, qui est la limitation de l'État par la société civile et aussi par l'équilibre de pouvoir, tout ça, ça disparaît, c'est englouti. Et qu'est-ce qui reste quand tout ça tombe? Eh ben, il reste un appel au césarisme, c'est-à-dire à l'homme fort, au pouvoir politique. Et ce à quoi on est en train d'assister, c'est tout simplement la reconstitution souhaitée, attendue par l'électorat, sinon il n'aurait pas voté pour ce candidat, et par Trump lui-même, d'un césarisme politique. Alors, moi, je sais pas si c'est du fascisme, faut faire attention aux comparaisons historiques, parce que le contexte n'est pas du tout le même, parce que les références sont pas du tout les mêmes. Et puis surtout, c'est ma dernière phrase, le fascisme de Mussolini, il était hélas, en prise avec une certaine réalité nationale et internationale. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, il a ainsi scandé de façon sanglante l'histoire. Monsieur Trump, il est en complète séparation de la réalité du monde tel qu'il est. Et en Corée, j'ai été une des toutes petites illustrations de ce phénomène d'un homme qui est hors sol. Bah, quand on est hors sol, on finit par tomber, on se fait mal.
Sylvie Kaufmann.
Oui, sur la comparaison avec le fascisme, il faut étudier ce qu'a dit notre ami Marc Lazare, qui connaît très très bien cette question, et d'autres spécialistes de cette période historique qui montrent qu'il manque quand même des éléments caractéristiques du fascisme, comme l'organisation d'une force armée propre, l'État fort. Enfin, il y a plusieurs éléments constitutifs du fascisme qui manquent ici, même si je pense qu'on peut évidemment parler d'autoritarisme, de tendance autoritaire de manière très claire. Vous parliez de champ lexical et je voudrais raconter une petite intervention qui a été faite à la télévision, qui est très révélatrice à la télévision américaine. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui est démocrate et qui est un des opposants les plus déclarés à Donald Trump, a prononcé cette phrase à la télévision cette semaine: arrêtez les immigrés illégaux comme le fait ICE, c'est-à-dire l'agence de lutte contre la police de l'immigration, merci, oui, est un acte autoritaire émanant d'un gouvernement autoritaire. Alors, aussitôt après qu'il a dit ça, Stephen Miller, que vous avez cité, qu'on a entendu, qui est le directeur de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, qui est donc un peu l'idéologue aussi de Trump, a fait un post sur le réseau social X en disant, en reproduisant cette phrase, et en disant « Ce langage est une incitation à la violence et au terrorisme ». Alors ça, c'est intéressant parce que ce mot de terrorisme, maintenant, est pris de manière tout à fait formelle par la Maison Blanche. Le président Trump a pris un décret, un executive order, un décret présidentiel cette semaine, à l'appui duquel il menace George Soros, par exemple. George Soros, 95 ans, bête noire, ce qui est un financier philanthrope qui a eu un rôle très important pendant la guerre froide, dans les transitions des pays ex-communistes après la guerre froide d'Europe de l'Est, qui a aidé de multiples mouvements démocratiques, qui est évidemment la bête noire de Viktor Orban, puisqu'en plus il est originaire de Hongrie, mais qui est aussi la bête noire maintenant du trumpisme, parce qu'il soutient des causes démocrates. Il peut être accusé maintenant d'incitation à la violence politique et au terrorisme. Donc ça va, on va dans le champ lexical. Non seulement on va très loin dans le champ lexical, mais on va très loin dans le champ pénal et juridique aussi. Voilà, c'était ce que je voulais souligner. Et puis je voulais aussi attirer l'attention sur, à propos de l'autoritarisme, il y a une journaliste du magazine The Atlantic qui a grandi au Venezuela, Gisela Salim Peyer, et elle raconte dans un article qui est en ligne en ce moment, comment l'autoritarisme peut arriver progressivement, petit à petit, une mesure après l'autre. Elle dit, ce n'est pas insupportable tout de suite. On a encore de l'espace pour respirer. Au début, on se dit, ça va s'arranger. Mais cet espace se réduit de plus en plus jusqu'au moment où vous n'arrivez plus à respirer, mais il est trop tard. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut étudier à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villene.
On se demande où en est la démocratie en Amérique et nous sommes toujours en compagnie de Bertrand Badi, professeur en relations internationales, Asma Mala, docteur en sciences politiques pour votre nouveau livre Cyberpunk, le nouveau système totalitaire, Sylvie Kaufmann qu'on vient d'entendre, éditorialiste au journal Le Monde, et Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales. Vous vouliez réagir?
Oui, je voulais réagir à l'intervention d'Asma Mala et de Bertrand Badi. Je pense qu'il y a un rappel intéressant à faire pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis, c'est la tentative qui a échoué de Joe Biden de remettre en cause le monopole des plateformes numériques en 2020. Et effectivement, la peur que cela a suscité chez les grands acteurs de la tech explique très probablement leur basculement collectif vers le monde MAGA, ce qui n'était pas le cas lors du premier mandat de Donald Trump en 2016. Il y en avait un seul qui l'avait rejoint à ce moment-là, c'était Peter Thiel, qui continue à jouer un rôle très important. Mais je pense que la question, c'est en fait pourquoi l'administration Biden a échoué. Et la capacité de ce système de plateforme numérique à se défendre à la fois économiquement et surtout politiquement. Le deuxième point, c'est que je ne pense pas, Bertrand, que Donald Trump soit hors sol. Je pense exactement le contraire, en réalité. C'est que il est élu, il est réélu, et effectivement, il incarne une vision du monde qui nous déplaît au plus haut point, mais qui suscite un assentiment de plus en plus large, à la fois aux États-Unis, puisqu'il a été réélu dans les conditions que l'on sait, mais également en Europe. Et la particularité de son succès politique tient au fait qu'il nous apparaît comme absolument réactionnaire, vulgaire, tout ce que l'on veut, mais il a su adosser à ce discours-là un discours futuriste. C'est très étrange, c'est-à-dire que voilà un mania de l'immobilier qui comprend au fond que il vaut mieux avoir Elon Musk avec soi, parce qu'effectivement il y a le réseau X, mais que Elon Musk tient un discours d'une nouvelle frontière. Et donc c'est à la fois du césarisme, mais c'est également du futurisme. Et quand on regarde, on en pense qu'on veut. Voilà. Mais toujours est-il qu'il ouvre une nouvelle frontière. Là aussi, pour faire écho au propos de Tocqueville. Pareil, je ne pense pas du tout que nous soyons face à un effondrement de l'idéologie et des institutions. Je crois au contraire qu'on est dans une forme de très forte reconfiguration de l'idéologie. Nous baignons tous dans une idéologie. Et une idéologie qui est en très grande partie portée désormais par ces acteurs de la tech étudiés par Asma Mala, qui ont une prétention philosophique de plus en plus affirmée. Et c'est ça qu'on ne veut pas voir. Alors, on peut dire c'est stupide, on peut dire ils sont débiles, etc. En réalité, je pense qu'il faut suivre très attentivement ce qu'ils écrivent, parce que ce qu'ils écrivent, c'est l'idée d'une humanité augmentée. Ça peut nous déplaire, mais c'est porteur à la fois d'effets dans les organisations, extrêmement puissants, et c'est également porteur, encore une fois, d'une certaine vision du futur. Quant aux institutions, oui, telles qu'on les a conçues, elles sont probablement en train de s'effondrer, mais elles se recomposent par l'intermédiaire des plateformes numériques, qui sont en fait en train d'innerver tous nos systèmes, quels qu'ils soient. Et puis peut-être le dernier point, c'est effectivement ce qu'indiquait Sylvie sur la démocratie. Au fond, la démocratie, c'est comme la sécurité. C'est-à-dire que c'est quand on... ou comme l'oxygène. Quand il n'y a plus d'oxygène, on s'en rend compte de son importance. Et en réalité, c'est effectivement ça qu'il faut, à mon avis, garder à l'esprit. C'est que c'est très progressif. Et ce à quoi on assiste aux États-Unis, c'est à la fois... le paradoxe, c'est que c'est plus progressif, mais c'est extrêmement rapide.
On aurait peut-être même pu dire que la démocratie, c'est comme la santé. La démocratie américaine est-elle malade ou c'est la nation américaine qui l'est? Je vais vous donner la parole, Bertrand Badier, vous allez pouvoir répondre. J'aimerais aussi entendre Sylvie Kaufmann sur le fait... c'est à vous, Asma, dans un instant. J'aimerais entendre Sylvie Kaufmann quand même tout à l'heure sur est-ce que le Trumpisme est une idéologie ou pas, ou les MAGA. Et surtout, la question que je vous pose, parce que je crois que vous l'abordez dans ce livre, Asma Mala, c'est est-ce que finalement ce n'est pas un retour de bâton après des années de batailles culturelles remportées par le progressisme?
Alors, c'est une question programmatique, puis il y a beaucoup de réactions à avoir sur tout ce qui a été dit. Je suis en phase avec beaucoup de choses. Sur la question de la bataille culturelle, oui, c'est la fameuse phrase qui est probablement une des raisons de la victoire de Donald Trump, au-delà de son côté très liturgique, puisqu'on écoutait la messe juste avant, mais qui est en fait la question du bon sens. Quand il va lancer cette phrase, c'est le common sense. C'est en fait, on est allé probablement aux États-Unis, il y a eu ce sentiment, qu'on retrouve d'ailleurs en Europe, sur on est allé trop loin, et donc vous avez un backlash, vous avez un retour, une réaction à ça. Le problème, c'est qu'eux-mêmes vont trop loin. Et donc ça, c'est tout le discours qu'on vient d'écouter de Stephen Miller sur l'espèce d'idéologie plus que néo-réactionnaire. Ça, c'est première réaction. Le turning point qu'on écoutait aussi, c'est un récit. Et donc, un récit, ça se déconstruit. Et ça, il faut absolument être très vigilant à ça, parce que sinon, en effet, on va passer notre temps à blanchir des idéologies complètement folles, qui sont beaucoup plus qu'autoritaires. Et à un moment donné, il faut mettre des mots. Autoritaire, c'est une espèce de mot valise où on est tous autoritaires. Alors, les dictatures africaines sont autoritaires, asiatiques aussi, mais alors il y a quand même des choses qui sont des marqueurs quand même très intéressants dans le trumpisme, qui ne se réfèrent pas du tout aux années 20 européennes, ça c'est vrai, qui ne se réfèrent qu'à elles-mêmes, c'est vrai, qui sont de l'ordre du spectacle et de la saturation cognitive, c'est vrai, qui sont très 21e siècle, c'est vrai, mais qui ont quand même des marqueurs. L'ennemi intérieur, le culte de la personnalité, la mise au pas de l'appareil d'État, les purges, quand même. Enfin, il faut quand même être un tout petit peu vigilant aussi de ne pas être trop tatillon sur les mots. Ça, c'est ma deuxième réaction, mais je dois quand même terminer. Sur la question très justement posée par Thomas Gomard sur la question de l'Empire. Parce que, en fait, c'est ça. On a un empire américain qui s'est construit dans le post-1945 et qui aujourd'hui, à mon sens, on pourrait en discuter, ce serait intéressant, j'adorerais avoir votre avis, qui est en déclin, si on reprend les grilles de Paul Kennedy, etc. Et ce qui explique de façon très lisible Trump. Trump est parfaitement lisible si on le lit par la grille de lecture de l'Empire. C'est-à-dire que quand il parle des coûts de sécurité, de l'OTAN, de l'Europe qui doit se mettre à payer, etc., le gars, il est en train de rationaliser, en fait, des coûts d'entretien d'Empire qui deviennent, d'après lui, excessifs. Ce faisant, il met une anarchie absolument globale et donc on se retrouve, et totale, et on se retrouve, en fait, avec un ordre mondial pluri-empire. C'est-à-dire que vous avez cette compétition géostratégique, États-Unis-Chine, et avec, évidemment, la question technologique et les géants technologiques qui sont au cœur. Et en effet, une des façons de réinventer l'empire américain, c'est d'abord l'empire cognitif, et c'est ce qu'ils appellent, eux, la next frontière, c'est-à-dire la frontière biologique, cognitive, les implants, et la frontière galactique, c'est Mars quand même, plus que le Groenland.
Bertrand Badie, vous vouliez réagir, et j'aimerais qu'on ajoute à la discussion quand même les élections qui sont toujours libres aux États-Unis. Oui. Si on parle de démocratie, c'est peut-être bien de le souligner.
Oui. Il y aurait toute une dissertation sur qu'est-ce que c'est que des élections libres. Demander aux Moldaves aujourd'hui ce qu'il en est. Bon, mais je voudrais livrer un scoop à 11h38, c'est que je suis en total désaccord avec Thomas Govan.
Alors, j'imagine bien.
C'est difficile d'être davantage en désaccord. Oui, Thomas, c'est vrai qu'il y a un assentiment, un engouement pour la personne de Trump et qui a quand même effectivement été élu. Mais c'est typique de l'assentiment à l'adhésion à la protestation. La posture de Trump est une posture protestataire. Ce n'est pas une posture futuriste. Là où il a été extrêmement malin, c'est d'avoir su capter le vocabulaire qui parlait à tous ceux qui, effectivement, sont dans une situation de détresse, de colère, de frustration, de privation. Ça n'a rien à voir avec la lucidité. La malice, être malin... Non, mais là, c'est important. Être malin, c'est être lucide à court terme. Ce n'est pas être lucide à moyen ou long terme. Ça, c'est un premier point. L'autre point, il n'y a pas d'idéologie trumpienne. Une idéologie, c'est quoi? C'est une représentation du monde, c'est une Weltanschauung, c'est une façon de concevoir la cité, c'est offrir un modèle de cité qui s'inscrit dans un contexte donné. Mais, et c'est l'autre point de réponse que je voulais apporter, je crois qu'il éclaire bien la réalité trumpienne aujourd'hui, quand je disais qu'il est hors sol, c'est qu'il a échoué dans tous les aspects du traitement du réel contemporain. Regardez les politiques tarifaires et cette incompréhension de ce qu'est le commerce mondial et l'interdépendance économique. Regardez sa naïveté face à la Russie. Regardez son incompétence face à la crise de Gaza. Non, mais tout ça, c'est important. Et ce que je voudrais quand même dire dans cette affaire, c'est que les institutions sont mécaniquement victimes de tout ça. Ne dites pas que les institutions américaines vont renaître dans le numérique. Enfin, je veux dire, c'est absolument incompréhensible. Si Hobbes et Locke ont été tous les deux congédiés par Trump, c'est parce que, évidemment, ils préfèrent la vacuité institutionnelle du césarisme à la théorie de l'équilibre de pouvoir. Il faut avoir tout ça en tête et en main pour comprendre que cet homme est en rupture avec son temps.
Je demande à Sylvie Kaufmann d'arbitrer ce débat.
Non, je n'arbitrerai pas, je ne me risquerai pas à ça, mais je veux dire, on est dans un autre monde, on n'est plus dans le monde construit des idéologies cohérentes qui s'affrontent, etc. On a, Asma décrivait tout à l'heure cette triangulation, et on y est, c'est-à-dire que Trump lui-même ne se présente pas comme un idéologue. On aurait du mal à trouver une vraie idéologie construite et structurée dans ses propos si on ne prend que ses propos à lui. Ils sont décousus, il crée le chaos, c'est très compliqué à analyser pour des gens comme nous, Bertrand, je crois.
mais personne sensé.
Mais derrière lui, voilà, donc lui, il va plutôt parler à cette colère des rednecks qu'évoquait tout à l'heure Asma. Mais derrière lui, en revanche, il y a en effet ces titans de la tech qui disent des choses aujourd'hui qu'ils ne disaient pas du tout il y a 10 ans. J'ai retrouvé dans un ouvrage supervisé par The Economist, une citation d'Elon Musk qui date de 2017, donc déjà le premier mandat de Trump, assez extraordinaire, où il dit « L'intelligence artificielle, il faut être extrêmement prudent à ce sujet. De plus en plus, les scientifiques disent qu'il doit y avoir une supervision de régulation, peut-être au niveau national et international, juste pour être sûr qu'on ne fait pas quelque chose de fou. » Avec l'intelligence artificielle, nous sommes en train de convoquer le démon. Bon, donc c'est pas tout à fait ce qu'il dit aujourd'hui. Mais donc, dans cette équipe de gourous de la tech qui sont aujourd'hui au premier rang, qui sont invités à dîner, on l'a vu l'autre jour à la Maison Blanche, et qui se couchent littéralement devant Donald Trump en lui disant, en lui rendant hommage à tout ce qu'il a fait, etc. Là, il y a des choses qui sont davantage constitutives d'une idéologie. Et puis, il y a aussi ces gens qui guide le peuple MAGA, si je peux dire. On l'a vu récemment, il y a eu cette conférence conservative nationale conservatrice nationale, pardon, début septembre à Washington. Et là, on voit qu'on est vraiment dans une guerre culturelle. Quand on écoute les gens qui sont intervenus à cette conférence, il y a vraiment quelque chose, c'est le centre de cette idéologie, c'est bien sûr la famille. On reproche à la gauche d'avoir été... la gauche est caricaturée comme ayant été pétrie de culpabilité blanche. L'Amérique n'est pas une idée, mais elle est un peuple, elle est un lieu. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez solide derrière ça. Et je termine là-dessus. On voit d'ailleurs les germes d'un débat dans ces différents éléments idéologiques, c'est-à-dire que la base MAGA, ce qu'on appelle la base MAGA, c'est-à-dire peut-être les rednecks, enfin les électeurs de Make America Great Again, le slogan de Trump, les électeurs de Trump, sont assez en rébellion pour une partie d'entre eux contre les gourous de la tech, parce qu'ils sont inquiets de ce qu'ils véhiculent.
Steve Bannon, d'ailleurs, les déteste.
Voilà, Steve Bannon était le héros de ces gens-là, héros AUT à la fin. Et ils ont peur de ce que représente ce futur, ce transhumanisme, ce futur, des conséquences de l'intelligence artificielle sur leurs emplois à eux. Voilà, donc là, il y a déjà une division qui se profile.
I never imagined I would be in a situation like this. I barely paid attention in school. But one thing I did learn from Lenny Bruce and George Carlin and Howard Stern is that a government...
Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une situation comme celle-là. Et pourtant, j'ai été bien attentif à l'école. Mais une chose que j'ai appris de Lenny Bruce et de George Carlin et de Howard Stern, c'est qu'un gouvernement qui menace de faire taire un humoriste que le président n'aime pas, c'est anti-américain. C'est anti-américain. Je suis ravi que nous ayons une certaine solidarité sur ce sujet, de la droite à la gauche, et même de la part de ceux un peu au milieu comme Joe Rogan. Peut-être que le point positif sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord, et peut-être pouvons-nous trouver d'autres accords ou s'accorder sur beaucoup de choses, la protection de nos enfants contre les armes à feu, les droits reproductifs, la sécurité sociale, les soins de santé abordables et la recherche sur le cancer pédiatrique. Ce sont des choses que la plupart des Américains soutiennent. Arrêtons de laisser les politiciens nous dicter leur volonté et disons-leur ce que nous voulons.
Jimmy Kimmel, le 23 septembre dernier, lors d'un fameux monologue propre au Late Show américain, de retour sur la chaîne ABC après une semaine de suspension. Je vous donne la parole tout de suite à ce moment-là, parce que vous vouliez sans doute réagir à ce que disait Sylvie Kaufmann. Et je crois qu'il y a un concept très intéressant dans votre livre qui s'appelle le gaslighting politique. Ça veut dire de souffler le chaud et le froid. J'aimerais que vous nous en disiez un mot. Et puis, pour avancer dans cette émission, parlons bien sûr de la liberté d'expression. Dans quel état est-elle aux États-Unis, ce qu'on appelle Free Speech in America? Et je pense que vous avez tous vu ici la une de The Economist qui met trois Donald Trump sur la liberté d'expression.
Le journaliste.
Exactement. Le preneur de son, le président et le caméraman. Allez-y, Asma.
Alors, très rapidement, je souscris à tout ce qu'a dit Sylvie Kaufmann, évidemment. Merci pour la citation de Elon Musk 2018, comme quoi, sur la question des idéologies fixes, c'est très intéressant.
Et on aurait pu parler de Mark Zuckerberg qui a fait
et surtout,
plus rapide.
Ouais, mais il n'est pas intéressant, Zuckerberg, parce qu'il est juste opportuniste et sans charisme. Non, celui qui est très intéressant, que Thomas Gomard a cité, c'est évidemment Peter Thiel, à deux égards. Et c'est en ce sens qu'il y a bien une idéologie, mais elle n'est pas chez Trump, elle est chez l'alliance de Trump, chez les gourous de la tech, ou ces méga-corporations technologiques, parce que c'est pas toute la tech, mais les méga-corps que sont Musk, Zuckerberg ou Palantir avec Thiel, eux ont une vraie vision du monde, ont une vraie vision du futur, avec une projection, avec l'homme augmenté, avec une civilisation multiplanétaire. Ils ont un vrai projet de rupture civilisationnelle qui est très clair et qui est parfaitement antidémocratique. Ça, c'est assez évident, avec des idéologues complètement cinglés derrière, comme Curtis Yarvin, etc. Bon. Ça, c'est la première chose. Là où Trump a été très malin, c'est cette alliance qu'il a faite avec Musk, parce que c'est du rétrofuturisme, c'est ce que j'explique dans Cyberpunk. C'est-à-dire que Trump va faire un coup de génie encore au-delà de la triangulation. Il va rassurer toute cette peur américaine, cette colère américaine, en disant, on va restaurer la grandeur américaine, c'est America first and make America great again, et donc on va revenir aux valeurs des années 50, la maman à la cuisine, l'homme blanc dans les usines, et on va rebâtir la puissance américaine, et on va remettre en ordre de marche, en homogénéisant la population vers cet empire. Et c'est comme ça qu'il rassure, en fait, ses peurs viscérales. Ça, c'est la partie rétro.
Même s'il y a beaucoup de femmes qui ont des postes très élevés.
Aucune importance. Et
Allez-y, Sylvie Goffman.
Ça, c'est la part... beaucoup d'enfants.
Et elles font beaucoup d'enfants. Et elles sont blondes. Et on, je répète. je vais finir par me teindre. Et donc ça, c'est la partie rétro. On rassure. C'est la réassurance très populiste. Hein, mais qu'il va accoler à la partie futuriste, qui est Elon Musk. Et ça, c'est... On est partis vers le 22e siècle. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ceux qui sont en train de naître aujourd'hui seront contemporains du 22e. Rapport à la crise politique française qui, elle, nous a fait prendre un siècle dans la figure, littéralement, par rapport à ça et nos enjeux de souveraineté globale, industrielle, mais surtout intellectuelle et cognitive. Ça, c'est sur la partie rétrofuturisme pour comprendre la dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre l'hybridation du nouveau système politique, de la nouvelle arène politique ou du pouvoir avec ces deux têtes. Big Tech, Big State. Sinon, on passe à côté. Ça, c'est
pour traduire les grandes puissances et les grandes technologies, les grandes entreprises
de technologie. Mais votre État tient sa puissance par et pour ces géants technologiques. Il y a vraiment cette coalition, mais qui est très d'ailleurs chaotique. Et peu importe d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième et dernière chose, mais je dois quand même le dire, sur la partie religieuse. C'est quand même un pays qui est extrêmement religieux et qu'on n'arrive pas à comprendre, nous, d'ici en Europe. Et d'ailleurs, c'est là aussi le piège dans lequel s'est complètement enferrée l'extrême droite européenne, qui est un... C'est hallucinant, on pourrait en parler, c'est dingue. Elle s'est mise dans un dilemme inextricable. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à se vassaliser, à faire allégeance à Trump, sans comprendre qu'en fait, ils ne cherchent qu'une seule chose, c'est nous vassaliser. Donc il va bien falloir qu'ils nous expliquent comment est-ce qu'ils vont redonner du corps à leur discours sur la souveraineté en s'écrasant comme ça devant Musk et Trump. Ça, c'est un non-sens que je trouve qu'on ne pointe pas assez. Mais je termine, Peter Thiel, quand même, a un discours de l'apocalypse. On en est quand même là. Et de l'antéchrist. Là, il est en train de faire actuellement, au moment où on se parle, une série de conférences sur l'antéchrist, accolé à l'IA, en expliquant que le gouvernement mondial de la régulation et de la réglementation et la limite et les droits, etc., c'est quand même l'antéchrist qu'il faut abattre. Et donc, la logique totalitaire, et j'assume mes mots, sont du côté des gourous de la tech. Et quand on mesure leur puissance, elles sont des infrastructures civilisationnelles aujourd'hui. Là, on a un énorme problème.
Thomas Gomard.
Peut-être deux points pour... répondre à Bertrand et à Asma. Bon, le premier, sur le débat, y a-t-il une idéologie, n'y a-t-il pas d'idéologie ? Je persiste en disant qu'il y a une idéologie qui, à mon avis, a deux piliers principaux. Le premier, Asma Bala vient de le rappeler, c'est ce qu'on pourrait appeler l'homme et la femme augmentée, et qui est porté par la tech. Et puis le deuxième, c'est celui du monde MAGA, qui, évidemment, ça nous choque au plus haut point, mais qui considère, au fond, que les Blancs ne sont pas une minorité comme les autres. Et ça, c'est extrêmement mobilisateur, en fait, au-delà des États-Unis. Et je pense que ça se voit aussi en Europe. Le deuxième point, c'est que Jean-Marie Guéhenno avait écrit un livre en 2021, vous en souvenez peut-être, qui s'appelait « Le premier 21e siècle ». Et alors, en lisant le vôtre, cette lecture m'est revenue à l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il dit une chose très intéressante. C'est le premier à faire un parallèle aussi fort, dès 2021, entre le Parti communiste chinois et les plateformes numériques américaines. Et il dit en 2021, en fait, la Chine, c'est très commode parce que c'est un épouvantail commode pour nous faire aimer le désordre démocratique. Et à mon avis, ce qui est en train de passer, c'est que nous sommes en train de nous déplacer, ça permet de vous répondre sur l'aspect impérial de la politique américaine, nous sommes en train, en fait, de laisser de côté l'organisation chinoise qui passe par la technologie à un point aussi très prononcé, pour nous focaliser sur le système américain, pour une raison assez simple, c'est que d'abord, on est quand même beaucoup plus proche en termes d'échange, et qu'ensuite, ça reste un système ouvert. Mais la réalité, à mon avis, sur laquelle il faut réfléchir, c'est cette fusion qui est en train d'apparaître entre le monde tech, on va dire, occidental, plutôt américain qu'occidental, et le monde tech chinois.
Absolument.
Voilà, c'est ça, à mon avis, qui...
Et on a même des convergences de modèles, c'est ça qui est très inquiétant, en réalité.
Sylvie Goffman, puis Bertrand Badi. J'aimerais, comme on s'approche de la fin de cette émission et de vos coups de cœur, qu'on essaie d'avoir peut-être un peu d'optimisme. Quand on voit par exemple Joe Rogan, le podcasteur très proche de Donald Trump, qui a soutenu Jimmy Kimmel, hein, au nom de la liberté d'expression, ou peut-être Liz Cheney et d'autres qui appellent leurs collègues républicains à ne pas laisser passer l'irresponsable, je ne sais plus quelle est sa
tête. Oui, justement, c'était une petite note positive que je voulais ajouter.
Dans le désastre du monde.
À la fin de l'émission, c'est quand Thomas fait le parallèle entre le système chinois et le système américain. Il y a effectivement une force de ces entreprises de la technologique dans les deux systèmes, mais il y a une différence fondamentale, c'est que jusqu'à présent les États-Unis sont un système pluraliste, alors que le système chinois est un parti unique dans lequel il n'y a pratiquement pas d'élections. Les citoyens ont, enfin les Chinois, le citoyen chinois a beaucoup de mal à se faire entendre. Aux États-Unis, on a encore, malgré toutes les réserves qu'on a décrites dans cette émission, on a encore la possibilité de voter malgré le redécoupage électoral. On a encore la possibilité de s'exprimer malgré
les menaces
et les limitations qui s'imposent. Jimmy Kimmel est revenu, a été rétabli dans son émission. Il y a des tas de modes d'expression, les podcasts, les obstacles, je ne sais quoi, enfin, sur le web, qui permettent de s'exprimer librement en dehors des cadres établis. Donc, il y a de l'espoir, il y a des élections dans un an, à peu près, les midterms, et donc tout n'est pas perdu.
Bertrand Badie ?
Oui, un point...
Et peut-être si vous pouvez nous qualifier, vous, la période, puisque Asma Malla parle de préfascisme, on a entendu autoritarisme, en un mot, vous arrivez.
On n'en est pas là, hein. Moi, je voudrais dire un point pessimiste, un point optimiste. Le point pessimiste, c'est tout ce que décrit Thomas, ce n'est toujours pas de l'idéologie. C'est une articulation de toutes les frustrations qui ont été...
On a bien entendu votre désaccord là-dessus.
C'est important, parce que se passe-t-il lorsqu'on est dans un discours qui articule les frustrations et les déceptions, qui se traduit effectivement par le suprémacisme, la nouvelle hiérarchie du monde, etc. Il se produit deux portes de sortie que le trumpisme vient en quelque sorte coller l'une à l'autre, qui est d'une part le césarisme, ça on en a suffisamment parlé, et d'autre part un libertarianisme, c'est-à-dire les institutions ne m'arrêtent pas, c'est ma volonté absolue qui doit triompher. Ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement dangereux et qui n'a rien à voir avec la représentation du monde. L'élément optimiste, c'est que, effectivement, quand je disais que les institutions sont en crise, elles ne se sont pas effondrées. Ce qui est arrivé à M. Comey, c'est une inculpation qui a été manipulée politiquement. Le jury ne s'est pas prononcé. Et rien ne dit que le jury condamnera l'homme. D'autre part, et là je rejoins Sylvie, ce qui est fondamental, c'est que Kimmel a gagné parce que l'opinion publique a obligé, comme l'opinion publique est en train de faire pression en faveur de la cause palestinienne. C'est très intéressant.
J'ai noté plus Hollywood que l'opinion publique.
Et ce sont plus de 25 millions de vues pour son retour.
Demandes très fortes qui ont été
sur YouTube.
Adressées.
Allez, on passe à vos coups de cœur. Il va falloir être plus court que sur la démocratie américaine, je vous le demande. Bertrand Badie, professeur en relations internationales, auteur de L'Art de la paix chez Flammarion en octobre 2024. Quelle est votre recommandation pour nos auditeurs et auditrices ?
Eh bien, j'ai reçu cette semaine l'ouvrage de Guillaume Devin qui s'appelle Notre système international et qui m'a beaucoup touché. D'abord parce qu'il s'adresse à un grand public et justement parce qu'il prend à témoin ce grand public que son lieu... ce n'est plus son village ou sa nation, mais c'est le système international. Il décrit un monde dans lequel nous sommes tous les piétons du système international. Et vous vouliez, chère Astrid, un peu d'optimisme. Ça, justement, c'est un sacré rayon de soleil comme celui de ce matin.
Sylvie Kaufmann, éditorialiste au journal Le Monde. Votre dernier livre, Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie chez Stock en 2023. Votre coup de cœur.
Alors moi, c'est moins drôle. Je vous encourage à aller voir le dernier film, le documentaire de Mstislav Tchernov, qui est un cinéaste ukrainien qui est sorti cette semaine et qui s'appelle « À 2000 mètres » d'Andriivka. C'est lui qui avait réalisé déjà ce documentaire à 20 jours à Mariupol, qui a été très, très salué par la critique éprimée. Et c'est un documentaire coup de poing sur la percée d'une compagnie de soldats ukrainiens qui doit parcourir 2000 mètres sous les drones pour aller planter le drapeau à Andriivka près de Bakhmout. C'est terrible sur le plan humain, mais c'est aussi très intéressant sur ce travail des drones, sur cet effet des drones dont on parle tant en ce moment.
Oui, je l'ai vu aussi, je confirme.
C'est fort.
Très impressionnant. C'est filmé à hauteur d'homme et ça montre bien aussi l'impossibilité de cette guerre ou de cette contre-offensive ukrainienne. Asma Malla, vous avez pu préparer un coup de cœur ?
Oui, alors juste, je précise quand même, moi je ne parle pas de pré-fascisme. Hein. Je développe quand même l'idée d'un fascisme simulacre, non, parce que sinon il y a des ambiguïtés partout.
Ah, il me semble que j'avais lu ça dans votre livre. Mais alors on ne va pas refaire le débat à une minute du rendu de l'antenne. Allez-y.
Sur les recos, donc c'est quand même moins important. C'est quelque chose de beaucoup plus hybride, qui ne se réfère qu'à lui-même et qui n'est pas forcément pérenne. La bonne nouvelle, c'est l'opinion publique qui, en effet, peut se réveiller. Et sur les recos, c'est un très grand classique, mais qui va être nécessaire, y compris pour nous ici en Europe. C'est L'homme révolté de Albert Camus. C'est se tenir droit intérieurement. C'est se rappeler les enjeux plus que de liberté, ceux de notre dignité, parce qu'ils sont forts. Pour une seule raison, c'est que nous avons été, nous, très très faibles. Ça, c'est... Et puis la deuxième recommandation, c'est se balader, c'est lire, sortir, aller dans le réel comme résistance, se toucher et faire l'amour aussi. Parce qu'il y avait une étude qui disait que les Français ne faisaient plus l'amour et c'est très grave politiquement.
Thomas Gomard.
Difficile d'intervenir après cette recommandation.
Vous n'avez que 10 secondes, donc voilà, soyez très court, s'il vous plaît.
Je vais être très court en voulant rendre hommage au général Burkhard, qui a quitté ses fonctions de chef d'état-major des armées le 31 août. Le chef d'état-major des armées, c'est le premier des militaires. Et le général Burkhard, je crois, a marqué ses 4 ans par son sens du contact tout à fait exceptionnel. C'est un homme d'une très grande discipline personnelle. Et je pense que ça doit nous conduire à nous interroger sur la manière du processus de sélection de nos chefs militaires, qui encore une fois fait sortir des personnalités exceptionnelles. Le relais est pris par le général Mandon, dont j'invite à lire les premiers ordres du jour sur l'attaque qu'il formule contre ce qu'il appelle le relativisme. Ce sont des thèmes intéressants à penser.
Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, merci d'avoir été là tous les quatre pour l'Esprit Public. Vous pouvez réécouter cette émission comme tous les autres épisodes sur l'application Radio France. On se retrouve la semaine prochaine à 11h sur France Culture.